Bernard, Baby Boom sur Parenthèse, la seule radio 100% talk famille.
La famille recomposée, c'est le sujet de Baby Boom ce matin. Famille recomposée du côté des enfants. Est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué lorsque les enfants sont tout petits? À vous de nous le dire. 01 70 62 9000.
Gaël Renard,
Baby Boom
sur Parenthèse.
L'unique radio 100% talk famille.
Mais avant de nous replonger dans notre sujet, l'info parenthèse avec Anne Latiole, avec une bonne nouvelle, les papas prennent plus en plus leur congé de paternité.
Bah oui, c'est une bonne nouvelle. Une récente étude montre que 69% des pères prennent leur congé paternité. Alors la décision d'arrêter de travailler pour pouponner est prise majoritairement par les papas eux-mêmes, sans y avoir forcément été incités. Alors par contre, généralement, la surcharge de travail est la première raison qui les empêche de prendre leur congé. Viennent ensuite les motifs financiers, mais bon, malgré tout, ils sont de plus en plus nombreux et c'est une bonne nouvelle.
Voilà, pour pouponner, on a dit, hein, pas pour aller au salon de l'auto, pour pouponner. Non, c'est pas gentil de dire ça. Merci, Anne. 11 jours, en même temps, c'est pas énorme non plus. Hein. Merci, Anne, à tout à l'heure pour les météos.
Gaël Renard,
Baby Boom,
sur Parenthèse.
L'unique radio 100% talk famille.
Et nous parlons donc des familles recomposées. Existe-t-il un âge plus facile pour accepter ainsi que papa est une nouvelle fiancée, que maman rencontre un nouvel amoureux? À ce sujet, je voulais vous offrir un livre qui s'appelle « La maman dédiée à un amoureux ». Ce livre, vous ne le trouverez nulle part ailleurs que dans les locaux de Parenthèse Radio et puis dans certaines bibliothèques. En tout cas, il n'est plus édité. C'est un livret, donc c'est un livre avec un livret parent qui est écrit par la pédiatre bien connue Edwige Antier dans la collection Croque la vie chez Nathan. La maman dédiée à un amoureux, c'est une très jolie histoire. Je ne sais pas si vous connaissez cette collection. Voilà, elle parle des choses de la vie. Edith est toujours devant la télé, Jules a peur du noir, Louise dit des gros mots, etc., etc. Donc la maman dédiée à un amoureux, c'est pour vous, en tout cas pour votre enfant si vous le souhaitez. Les choses dites de manière très simplement avec de jolies images en plus. 01 70 62 9000 si vous voulez ce livre, dépêchez-vous, il y en a qu'un. Et il est pour vous si vous arrivez la première ou le premier au standard. 01 70 62 9000.
Gaël Renard,
Baby Boom
sur Parenthèse.
L'unique radio 100% talk famille.
Du côté des parents, il y a beaucoup de livres aussi qui parlent de familles recomposées. Je vous en ferai une petite liste tout à l'heure. Tout de suite, eh bien, je vous rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Catherine Audibert, qui est psychanalyste, qui est auteure du complexe de la marâtre, paru aux éditions Payot. Alain Boutier est également avec nous. Il nous parle de médiation familiale puisqu'il est directeur du centre parents-enfants médiation à Montpellier. Et puis avec nous toujours Sylvie Cadol pour quelques minutes encore. Sylvie Cadol qui est sociologue, spécialiste des familles recomposées. Elle a écrit « Être parent et être beau parent » aux éditions Odile Jacob. Et puis « Famille recomposée, un défi à gagner » chez Marabout, un manuel pour revisiter la recomposition familiale. Sylvie Cadol, vous avez encore quelques minutes à passer en notre compagnie.
Oui.
Voilà, on a parlé tout à l'heure, effectivement, donc vous nous disiez qu'au moment de l'adolescence, ce choc familial, hein, il est souvent perçu comme ça par les enfants et parfois difficile à vivre. En même temps, j'ai envie de dire, au moins ils l'expriment. On disait tout à l'heure avec Alain Boutier et Catherine Audibert que parfois chez les tout petits, le problème c'est qu'ils n'avaient pas les moyens d'exprimer alors soit leur mécontentement, soit leur désarroi dans ces cas-là.
Oui, en fait, certains l'expriment néanmoins. Dans mon enquête, j'ai trouvé un certain nombre de témoignages de belles-mères ou de beaux-pères qui montraient que parfois l'enfant a envie d'être loyal vis-à-vis de l'autre parent, du parent qui est en quelque sorte remplacé par le beau-parent. Et parfois, donc, il a, dans son attitude, il montre son étonnement ou sa réprobation que la place de papa soit prise par le beau-père, que la place de maman soit prise par la belle-mère. Mmh. Et donc, il faut rassurer, je crois, bien sûr, l'enfant pour lui expliquer que c'est pas la même place et que la belle-mère n'est pas là pour se substituer à la mère, qu'elle a n'a pas la même fonction. Mmh. Et que même si elle est amenée, bien entendu, à s'occuper de l'enfant, eh bien, ça n'est pas en concurrence avec la mère.
Ouais. Le fait qu'aujourd'hui ce soit quand même relativement banalisé facilite facilite les choses pour les enfants. En général, ils sont pas tout seuls, hein, dans la classe. Il y a toujours un petit copain qui a vécu ou qui est en train de vivre la même chose.
Oui, ça facilite les choses. D'autant plus que la littérature de jeunesse aussi. Vous parliez de littérature de jeunesse. De plus en plus, dans la littérature de jeunesse, il y a des exemples de familles qui ne sont pas conformes au modèle traditionnel papa, maman, les enfants. Mmh. Hein, la littérature de jeunesse, maintenant, fait une place aux mamans toutes seules. Donc aux mamans qui retrouvent un papa, enfin, ou du moins qui retrouvent un compagnon, un papa qui tout d'un coup on ne le voit plus et puis on va le voir simplement le week-end. Enfin, toutes ces situations-là, qui sont des situations que vivent les enfants d'aujourd'hui, elles apparaissent dans les termes de jeunesse. Et ça, c'est bon, bien sûr, pour déstigmatiser la situation et pour la banaliser.
Oui. On a eu une idée des pourcentages de séparation. Les parents se séparent plutôt lorsque les enfants sont tout petits, entre 6 et 10 ans ou à l'adolescence.
Vous savez, il y a des, c'est vraiment à tout âge, hein, que maintenant les séparations ont lieu à tout âge, parce que les parents n'ont plus tellement l'idée qu'il faut tenir coûte que coûte en attendant d'avoir élevé les enfants. Hein. C'est une idée que, à tort ou à raison, hein, qui n'est plus tellement à la mode.
Oui, c'était ça, on attendait que les enfants soient grands, voire que les enfants soient partis, et qu'ils aient fait leur vie.
Voir qu'ils soient morts, comme, comme le disait la légende d'un dessin humoristique, hein, quand deux centenaires vont devant le juge pour divorcer, alors le juge leur demande qu'est-ce qui leur prend tout d'un coup de divorcer à leur âge, et ils répondent, on a attendu que nos enfants soient morts.
Quelle horreur!
Et d'une certaine façon, c'est peut-être pas si bête parce que c'est difficile à vivre pour les enfants à tout âge, y compris pour de jeunes adultes. Ce n'est pas facile du tout.
Au moment où ils construisent eux-mêmes leur famille, parfois.
Exactement. C'est pas facile du tout pour eux d'assister à la destruction, à la rupture du couple parental.
Alain Boutier.
Grandi. Allô. Oui, oui. Mmh. Allô.
Oui. Allô. Vous êtes là. Oui, j'entends bien. Je voulais savoir si vous aviez envie d'intervenir. Je vous entendais bougonner.
Ah oui, bien sûr, oui, oui, oui. Voilà, plusieurs choses qui m'interrogent un petit peu. C'est que tout à l'heure, quand on a parlé de figure d'attachement, j'ai entendu ce terme au singulier. Je crois qu'en enfant, on n'a pas qu'une seule figure d'attachement. La figure d'attachement, non, les figures d'attachement. Mmh. Aux parents, je l'ai entendu au singulier.
Ça dépend des situations, hein.
Ouais.
Toujours deux parents de naissance, à moins que ce soit un bébé éprouvette.
Oui, on a effectivement parlé des différentes formes de parentalité.
C'est moi qui ai prononcé ce mot parce qu'on était en train de parler d'un cas particulier. Donc,
oui.
Évidemment, on a deux figures d'attachement. On en a même plus parce qu'on peut s'attacher aux beaux-parents de la même façon qu'on s'attache aux parents.
On a un petit problème de liaison téléphonique, apparemment. On va essayer de régler ça. On va remercier Sylvie Cadol parce que je sais que vous deviez nous quitter assez vite. Merci de nous avoir consacré ce moment, en tout cas, Sylvie.
Au revoir.
À très bientôt. Au revoir. Donc, effectivement, vous êtes pressés. Je rappelle donc le titre de deux de vos ouvrages, Être parent, être beau-parent aux éditions Odile Jacob et Famille recomposée, un défi à gagner paru chez Marabout. Je vous invite à vous plonger dans ce livre. Et ben, ça y est, elle a raccroché. On va reprendre Catherine et Alain Boutier tout de suite après la pause. Simplement, nous parlions de livres pour enfants. Voilà, je vous ai vous donner quelques titres si ça vous intéresse. Alors, il y a toujours La maman dédiée à un amoureux qui est pour vous. Si vous nous appelez au 01 70 62 9000. Autre livre, Une moitié de sœur, c'est chez Flammarion dans la collection Castor Cadet, signé Marc Quentin et Virginie Sanchez. Florian n'accepte pas la situation, il doit rester un week-end sur deux sans Flora, sa demi-sœur. Autre livre, Quelle affaire avec les papas et les mamans, paru aux éditions L'École des loisirs, une galerie de portraits de famille recomposée, c'est signé Nadine Fabry. La ronde des familles également aux éditions Actes Sud de Junior, ça c'est un peu pour les plus grands, c'est signé Virginie Dumont. Et puis pour les tout petits, puisqu'on parle des tout petits aujourd'hui, Camille a deux familles, c'est à l'édition École des loisirs dans la collection Loulou et compagnie que vous connaissez certainement si vous avez des enfants, et c'est signé Ophélie Texier qui est un auteur qu'on avait déjà reçu pour parler d'homoparentalité notamment. Camille a deux familles donc à l'édition L'école des loisirs. Donc on marque une une pause. On se retrouve avec Catherine Audibert, Alain Boutier. Nous accueillerons Marie-Luce Jovan Chenon, la présidente du club des marâtres. Et puis Marie également qui nous a appelé et qui attend au standard.
Faites-nous partager votre expérience.
Appelez maintenant Gaëlle Renard. 01 70 62 9000.
01 70 62 9000.
Gaëlle Renard.
Baby Boom.
Sur parenthèse.
L'unique radio 100% talk famille.
Et nous parlons de recomposition familiale ce matin dans Baby Boom. Si vous venez juste de nous rejoindre, avec Catherine Audibert qui est psychanalyste, auteure du complexe de la marâtre paru aux éditions Payot, Alain Boutier qui est directeur du centre parents-enfants médiation, et puis Marie-Luce qui nous rejoint. Marie-Luce Jovan Chenon, bonjour.
Bonjour Gaëlle, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous Marie-Luce, c'est pas la première fois qu'on se parle, vous êtes présidente du club des marâtres, mais il y a des gens qui écoutent pour la première fois, donc ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Qu'est-ce que le club des marâtres et depuis quand existe-t-il Marie-Luce?
Alors dans l'ordre, le club des marâtres c'est une association d'entraide pour permettre aux femmes qui sont donc compagnes d'un monsieur qui a déjà eu des enfants, d'une ou de plusieurs précédentes unions, de pouvoir venir s'exprimer sur la difficulté, alors pas forcément dramatique, mais les difficultés qu'on peut rencontrer dans cette situation, et essayer ensemble de trouver des solutions pour que tout le monde aille bien et que si les adultes vont bien, les parents vont bien, les enfants vont bien. Donc voilà, je pense que c'est vraiment l'idée générale du club. Et ce club fonctionne donc sous forme de groupe de parole depuis 6 ans. Il est déclaré officiellement depuis 3 ans. Voilà.
D'accord, félicitations. Vous dites souvent qu'autrefois, voilà, c'était des choses qu'on se disait entre copines en chuchotant, voilà, sur la complexité du rôle de belle-mère, de marâtre, comme vous dites, et qu'aujourd'hui on ose en parler.
Oui, je crois que alors ce club a au moins servi à ça, c'est qu'il a libéré la parole en même temps que le livre de Catherine, que je connais aussi par ailleurs, Catherine Audibert, hein, qui est aussi en ligne. C'est vrai que de façon concomitante, on a fait des choses sans se connaître à peu près en même temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ose en parler, on ose dire que les choses sont pas faciles, on ose dire que essayer de fustiger sur un seul et unique personnage qui est la marâtre toutes les difficultés de la famille recomposée, c'est peut-être un peu facile, et qu'il faudrait peut-être entendre un peu les adultes qui disent que ça dysfonctionne ou que c'est un peu difficile, et que on peut trouver des solutions, et que les solutions, elles sont à trouver peut-être en disant que c'est important de penser aux enfants et à leur bien-être, et justement pour y penser correctement, il faut peut-être penser à la place de chacun des adultes dans cette situation.
Le thème de l'émission, c'est un peu de savoir si c'est plus facile ou moins facile pour les enfants, mais aussi voilà pour les éventuels marâtres ou parâtres, même si le mot, je crois, n'existe pas.
Et
si
on...
si il existe. En tout cas, on s'en inquiète un peu moins. Il faudra peut-être ensuite savoir effectivement comment se placer en tant qu'homme aussi. Hein. Et n'hésitez pas, si vous êtes un parâtre, à nous appeler au 01 70 62 9000. L'avis de la marâtre, donc, est-ce que c'est plus facile d'accueillir les enfants d'un compagnon, d'un nouveau compagnon, s'ils sont plus petits?
Alors, ça facilite les choses parce que quand ils sont plus petits, généralement, on est forcément dans le soin avec eux, plus que sur des adolescents ou des plus grands. Et donc, ça noue du contact. C'est ce qui permet effectivement d'arriver à les accueillir. Alors, c'est plus facile si les adultes se comportent correctement. J'entends les adultes, le papa d'une part, mais aussi la maman, qu'on va appeler biologique pour bien la distinguer de la marâtre, qui arrive ou pas à lâcher ses petits pour une autre femme et à lui donner l'autorisation implicite de s'occuper de ses enfants.
On va prendre en ligne Marie, parce qu'elle nous a appelé pour témoigner. Bonjour Marie.
Bonjour Gaëlle.
Merci de nous
appeler. Je ne peux plus me passer de vous, voyez.
C'est vrai, hein. Ben moi non plus, vous savez. 2 heures par jour au moins, en tout cas. Vous êtes en Seine-et-Marne, Marie. Vous vouliez témoigner parce que vous venez vous-même d'une famille recomposée.
Oui. Moi, mes parents se sont séparés quand j'étais tout bébé. Et j'ai pas souvenir d'avoir mal vécu les choses. La seule chose que ma mère m'a racontée, c'est que tous les hommes que je voyais dans la rue qui ressemblaient un peu à mon père, je les appelais papa.
Oui.
Je montrais en disant papa, papa. Donc bon, je pense que c'est comme ça que j'ai exprimé les choses.
Et que vous avez fait une réputation épouvantable à votre mère.
Voilà. Et par contre, mon père donc a refait sa vie et il a redivorcé quand j'avais 12 ans. Et là, par contre, j'ai mal vécu les choses, parce que j'étais très attachée à ma belle-mère. Et cette femme, finalement, je la vois toujours.
Oui.
Pour moi, c'est, elle fait partie de ma vie. Mes enfants l'appellent mamie. C'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment de l'importance dans ma vie.
Oui.
C'est une figure maternelle pour moi.
Et vous pensez que ça tient à la personnalité de cette personne ou à l'âge que vous aviez puisque vous entriez dans l'adolescence au moment de la deuxième séparation de votre papa?
Je crois qu'il y a un peu des deux. Bon, c'est particulier parce que cette femme n'a pas eu d'enfant. Donc elle a investi beaucoup dans notre relation. Et moi, quand on est petit, je crois que on s'attache aussi facilement aux gens. Dès l'instant où il y a de l'affection, on s'attache.
Oui.
Forcément. Par contre, donc mon père a encore refait sa vie, n'est-ce pas? Et j'ai eu plus
papa, si tu nous écoutes.
et j'ai eu plus de mal avec donc ma belle-mère actuelle.
Oui.
Alors je sais pas si c'est lié à l'adolescence ou si c'est lié à une moins grande différence d'âge aussi. Elle est plus jeune, donc on n'avait pas les mêmes rapports. C'était moins maternel, quoi.
D'accord. Ça doit jouer également. Je vous pose la question à tous, Catherine, Alain et Marie-Luce. Le fait, voilà, d'accueillir effectivement un bébé, c'est vrai que c'est plus facile de s'attacher à un bébé qu'on peut pouponner. En même temps, on peut se poser la question en tant que compagne de. Je m'y perds un peu moi dans ces histoires de famille. En tant que nouvelle compagne, s'attacher à un bébé, certes. Est-ce que pour autant on doit s'en occuper comme si on était la maman? Après tout le papa est là quand même pour donner le bain, pour changer les couches, pour mettre la crème, qui sont effectivement des gestes très très maternels et très charnels.
Oui.
Alors dans l'ordre d'apparition à l'écran, Catherine Audibert.
Oui, moi, la personne qu'on vient d'entendre là, elle confirme un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et aussi une chose sur laquelle je voulais réagir quand Sylvie Cadol parlait, quand elle disait, bon, comme si c'était une évidence, il y a les parents d'un côté et puis les autres, ce ne sont pas des parents, il faut bien les distinguer. Or, moi, quand j'entends parler un certain nombre de jeunes adultes aujourd'hui qui ont grandi en famille recomposée, ils parlent de par exemple leur père et de leur belle-mère en disant mes parents, comme ils peuvent parler de leur mère et de leur beau-père en disant exactement, en employant exactement le même terme. Et la personne qu'on vient d'entendre le dit, elle s'est attachée à cette femme qui était sa belle-mère et la considère comme une seconde mère aussi. Je crois que qu'est-ce qui fait qu'on est parent, enfin, mis à part le fait que effectivement il y a une légitimité qui se fait, une reconnaissance légale, mais sinon dans les soins, qu'est-ce qui distingue un parent d'un beau-parent à partir du moment où celui-là s'investit pour aimer et pour éduquer un enfant? Donc bon, moi la frontière, quelquefois je la vois pas, et c'est dans les représentations adultes qu'on essaye de l'imposer absolument, peut-être pour pas blesser encore une fois les parents, mais on essaye de mettre cette frontière là, alors que les enfants ne la mettent pas eux forcément.
Oui, peut-être d'une part pour ne pas blesser les parents, voilà. De l'autre côté, d'autre part aussi
ils
pour
la mettent, les enfants, ouais. Parce que ils sont pris certainement dans un conflit de loyauté. Mais c'est pour ça que les petits-enfants, eux, ne la mettent pas, cette frontière-là. Il y a des adultes qui s'en occupent, et si le papa laisse la possibilité à la belle-mère d'avoir une place et un rôle dans la nouvelle famille qui reconstruise, eh ben, pourquoi est-ce que ce serait lui qui devrait uniquement, lui, exclusivement s'occuper de ses enfants quand ils sont là et ne pas du tout laisser la belle-mère s'en occuper? Moi, je ne vois pas pourquoi. Enfin, ça crée un déséquilibre.
Ouais, il y a parfois, voilà, on a l'impression que c'est presque le contraire, que à partir du moment où la belle-mère est là, c'est son rôle de femme de s'occuper du bébé parce qu'elle est une femme et que le papa se met un peu en retrait.
Bah après, bon, les pères sont plus tout à fait comme ça maintenant. Ils s'investissent aussi dans ce rôle-là. Mais après, ça se répartit dans le couple exactement comme ils ont envie que ça se répartisse, selon les affinités des uns et des autres. C'est vrai que si le père a pas envie, voilà, de s'occuper de ces choses-là, et ben ça le regarde. Il y a des papas qui adorent ça, il y en a d'autres qui l'aiment un peu moins. Et si la belle-mère peut prendre le relais, et ben tant mieux, parce qu'il y a au moins quelqu'un à qui ça fait plaisir, et je crois que c'est tout bénéfice pour l'enfant. Mmh. Par contre, c'est vrai que si la belle-mère aime pas jouer avec avec les enfants, par exemple, et que le papa adore ça, et ben voilà, ça peut se répartir de cette
de manière plus
voilà. Dans un, comme dans tout couple d'ailleurs. Hein,
de manière assez assez naturelle. Alain Boutier.
Oui, oui, j'aime bien tout ce que dit Libère.
Oui.
C'est très sensible. Moi, je ne veux pas reprendre ce qu'elle dit. Je peux pas me placer. Je vais pas me placer du point de vue de sa sensibilité, que j'apprécie beaucoup. Et je disais tout à l'heure, je suis très très content. J'ai entendu parler justement des figures d'attachement concernant l'enfant. C'est-à-dire l'enfant s'attache à plusieurs. Et c'est ce que souligne d'ailleurs Catherine Audibert. Il y a une question qui me préoccupe quand même. Et vous le savez, en tant que parent enfant médiation, on a le souci. De ce qui se passe dans la société quand on voit beaucoup de pères disparaître de la vie des enfants, donc le père manquant, ça nous fait grandir une société qui idéalise le père, peut-être un petit peu trop, et qui idéalise aussi le beau-parent. C'est un petit peu né, c'est venu du manque de père et de repère, ça on l'a souvent dit.
Oui.
Et il faut méfier de cette idéalisation du père, c'est-à-dire à vouloir absolument qu'un père soit parfait d'abord pour pouvoir être dans la vie de ses enfants. C'est souvent l'épreuve qui soumet les pères, je veux dire, au niveau du corps judiciaire, on voit très bien une forme de rejet de la paternité qui pourtant veut sans se vouloir professionnelle, elle se veut responsable, elle se veut compétente, et souvent les mères, sans le savoir, fabriquent l'exclusion du père par appareil judiciaire interposé. Mmh. Cela, il faut quand même se méfier de l'idéalisation du père, qui propose pas forcément un bon repérage, un bon discernement. Et si vous voulez, la plupart des professionnels qui se préoccupent de la parentalité, donc de la vocation maternelle, de la vocation paternelle, ne sont pas dissociés du système. Et les professionnels manifestent souvent une sorte d'exacerbation à la vocation générale de la parentalité qui se devrait d'être parfaite. Alors, on a parfois enlevé des papas qui n'étaient pas parfaits dans la vie de leurs enfants, pour vouloir les remplacer par des beaux-pères. Sont-ils plus parfaits?
La question qu'on peut se poser aussi aujourd'hui, c'est si on n'idéalise pas justement un peu trop la famille recomposée, qu'on voit ça forcément comme une ambiance à la Claude Sauté, vous voyez, où tout le monde se voit, tout le monde s'entend bien, et que tout ça c'est très rarement le cas parce que il y a le facteur humain dans la réalité et que ça fait beaucoup de déçus.
Voilà, il faudrait retravailler sur la famille qui donne naissance à l'enfant, voir aussi faire naître du discernement auprès des professionnels préoccupés de la santé d'un enfant, préoccupés de son épanouissement, de son éveil, à savoir comment sont reçus les parents dans les structures d'accompagnement et de soutien. Je crois que c'est un problème aussi très important qui attire la responsabilité de tout le monde, à savoir comment sont entendus, écoutés, soutenus les parents et comment sont-ils considérés ou à déconsidérer. Mmh. Nous avons quand même pas mal de cas d'enfants mis en très grande difficulté à la suite de dysfonctionnements parentaux, on va dire ça comme ça. Et ces dysfonctionnements parentaux ne sont pas perçus à cause des phénomènes d'idéalisation. Alors, il faut pas se mettre tous à idéaliser le père, à idéaliser le beau-père, sans savoir à qui on a affaire réellement, concrètement. Et surtout, puisqu'il a été dit que l'enfant se donne plusieurs attachements, il est vrai que c'est l'apport de l'adulte dans la vie de l'enfant qui a besoin d'être, je dirais, revu, corrigé, sous-pesé, analysé, repensé. Il ne s'agit pas de dire aux enfants « adapte-toi ». Je veux dire, ça ne suffit pas de dire à un enfant « on va le rassurer », alors qu'on vient de lui adjoindre quelqu'un qui, pour lui, est totalement un étranger, totalement inconnu.
Ouais, on l'a quand même mis un tout petit peu devant un fait accompli. On a bien compris qu'il faut idéaliser personne, sauf moi, peut-être, on ne sait pas. 01 70 62 9000, on demandera juste après la pause une réaction à Marilus Jovanceno, donc la présidente du club des marâtres. Et puis vous aussi, réagissez en cette fin d'émission. 01 70 62 9000.
Faites-nous partager votre expérience.
Appelez maintenant Gaël Renard. 01 70 62 9000.
01 70 62 9000.
Baby Boom!
Gaël Renard.
Baby Boom.
Sur parenthèse,
L'unique radio 100% talk famille.
Famille recomposée, c'est le sujet de Baby Boom ce matin. Pensez-vous qu'il y a un âge plus facile pour les enfants lorsqu'il s'agit de séparation et de recomposition familiale? On attend votre avis, vos témoignages, votre expérience, si vous avez été confronté à cette situation, au 01 70 62 9000. C'est le numéro qu'a composé Marie. Marie qui est toujours avec nous, qui elle vient d'une famille recomposée, hein, c'est ainsi que vous l'écrivez. Marie, je vous propose d'écouter un reportage extrait de l'émission Les Maternelles sur France 5. C'est un jeune couple, ils s'appellent Amélie et Christophe. Ils ont une petite Rose qui a aujourd'hui 1 an. Ils sont eux-mêmes enfants de divorcés et Christophe a lui-même divorcé. Écoutez ce témoignage.
Je me suis marié à 21 ans, comme mes parents, je ne sais pas si c'est un hasard. J'ai fait ça certainement sans forcément réfléchir avant, trop vite, et j'ai divorcé 1 an plus tard, en ayant eu une petite fille de ce premier mariage. Je pense qu'il y a peut-être une connexion entre le divorce de mes parents et l'envie, moi, de fonder une famille, et sans me rendre compte que j'étais pas forcément prêt à ce moment-là, et que c'était pas la bonne personne.
Quand j'ai rencontré Christophe, je me suis pas projetée dans le futur avec lui.
Pour moi, le mariage, à cette époque-là, c'était synonyme d'échec, mais aussi de souffrance. C'était quelque chose de difficile.
Je voulais pas me marier, je voulais pas avoir d'enfant, parce que pour moi, le mariage, c'était la fin un peu du couple, quelque part. Et je me suis dit que ça allait arrêter les sentiments qu'on avait l'un pour l'autre. Ce qui nous a fait changer d'avis sur notre vie future, sur nos projets à venir, c'est Clara, la petite fille de Christophe. Qu'on avait qu'aux vacances scolaires, mais avec qui ça se passait super bien. On avait une vraie famille quand elle était là, quoi. Et donc, on a décidé d'avoir des enfants à nous deux, quoi.
Voilà, Amélie et Christophe, parents d'une petite Rose de 1 an, et vous l'avez compris, aussi une petite Clara, donc issue d'un premier mariage de Christophe, eux-mêmes enfants divorcés. Marie, j'aimerais avoir votre avis, voilà, sur ce témoignage. Vous êtes vous-même donc mariée, ou en tout cas, vous avez un compagnon, vous êtes vous-même maman, Marie. Oui. Tout va bien?
Tout va bien.
Est-ce que vous y avez pensé?
Je rejoins assez ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire que le mariage me faisait peur.
Ouais.
Quand mon mari m'a demandé en mariage, j'ai paniqué. Parce que pour moi, c'est exactement ce que je viens d'entendre. C'était la fin du couple. Et finalement, j'ai longtemps réfléchi parce que je voulais pas faire vivre ça à mes enfants. Je me suis dit, si je me marie, il faut que ce soit quelque chose de stable et voilà. Je voulais pas que mes enfants vivent des divorces, des séparations comme j'ai pu vivre moi. Mais l'engagement me faisait peur.
Vous dites donc du côté de votre papa, voilà, il s'est remarié 2 fois, donc vous avez eu 2.
Mon papa et ma maman aussi.
Et votre maman aussi. Vous étiez très très attachée donc à votre première belle-mère. Quel était le sentiment que vous aviez par rapport à votre maman? On n'en a pas parlé tout à l'heure.
Par rapport à ma belle-mère?
Non, à votre maman. Le fait de s'attacher autant à votre belle-mère qui vous a voilà de consacrer des soins puisque vous étiez très très petite hein, lorsque votre papa s'est remarié la première fois. Comment le viviez-vous par rapport à votre maman? Comment est-ce que vous arriviez à vous situer dans cette histoire, dans cette complexité familiale?
Elles ont eu l'intelligence toutes les deux d'essayer de bien s'entendre.
Mmh.
Donc moi ça m'a pas posé de problème majeur parce que elles se sont ni l'une ni l'autre dénigrées. Ma mère a toujours eu elle avait bien conscience de tout ce que faisait pour moi ma belle-mère et elle l'a toujours beaucoup respectée et toutes les deux des deux côtés hein, il n'y a jamais eu de méchanceté d'une part enfin d'aucun côté et du coup ça a facilité.
Et elle se parlait, elle essayait de se mettre d'accord tout à l'heure. Alain Boutier nous disait voilà que en cas de médiation familiale, on peut aller jusqu'à se disputer pour une marque de lessive ou de lait. Vous aviez l'impression voilà qu'elle communiquait pour être oui.
Et, bon, de temps en temps, elle se téléphonait, mais j'ai pas souvenir qu'il y ait eu des problèmes d'intendance les choses étaient assez simples.
Mmh, mmh. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez, Marie, de la première rencontre avec, alors peut-être que vous étiez trop petite avec votre première belle-mère, avec la seconde, avec le compagnon de votre maman. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour où...
Oui. Oui, de la rencontre avec ma deuxième belle-mère. Alors bizarrement, j'étais contente parce qu'elle avait des filles. Elle avait deux filles et je me disais chouette, je vais avoir des sœurs.
Mmh. Vous étiez fille unique vous à l'époque?
J'avais enfin c'est compliqué, hein, mais j'avais une sœur mais chez ma mère et personne chez mon père. Mmh. Et j'étais contente qu'elle ait des filles. Bon, j'avais pas d'a priori hein, quand je l'ai rencontrée. C'est après que les choses se sont compliquées, bon peut-être parce que j'étais adolescente et je vous dis, elle était enfin plus jeune, donc je crois que ça a joué aussi. Mais non, sur le coup, j'avais pas d'a priori.
Vous avez dit quoi? C'est quoi? C'est il nous ramène une jeunette, là, papa?
Bah oui. c'était un peu la crise de la quarantaine.
Vous aviez combien d'années de différence avec votre belle-mère?
On a 16 ans d'écart, donc c'est pas énorme. Hein.
Mm.
Et je crois qu'elle, elle a voulu être plus copine avec moi, vous voyez.
Oui.
Pas des rapports maternels comme avec sa première femme.
Et ça, vous n'en aviez pas envie?
Bah non. Non. Moi, je vous dis, j'étais attachée aussi à ma première belle-mère. Et j'avais pas envie d'avoir une copine, quoi. Par contre, j'étais contente qu'elle ait des filles. Bah c'est difficile, hein, parce qu'on a plein de sentiments contradictoires aussi. Hein.
Oui.
En même temps, j'avais envie de m'attacher, mais en même temps, j'étais aussi en colère parce que ça venait déstabiliser toute ma petite routine.
Oui, puis il y avait une certaine fidélité par rapport à votre première belle-mère aussi, peut-être.
Il y a ça, mais il y a aussi, je pense que c'est important, c'est tout le quotidien qui est bouleversé. Et ça, c'est difficile à vivre quand on a construit des liens sur le temps et que d'un coup, ben hop, tout s'écroule et il faut tout recommencer avec quelqu'un d'autre. Là, c'est pas évident.
Tout ça sur une petite vie, hein, parce que 12 ans, c'est quand même pas...
Ah oui. Mm. Ah, ouais. Je me souviens qu'à l'école, ça m'a perturbée. Je me suis un petit peu effondrée au niveau scolaire pendant cette période-là.
On va demander à Marie-Luce d'une part de réagir à votre témoignage. Marie-Luce, qu'est-ce que vous pensez du témoignage de Marie?
Bah, je pense qu'il est exemplaire de toutes les possibilités de construction et d'affection qu'on peut avoir. Il est à la fois exemplaire parce que c'est bien la preuve que quand les adultes sont intelligents, les choses se passent mieux pour les enfants. Quand elle parle de sa mère et de sa première belle-mère qui raconte un peu tout ça et qui disent les choses et qui se sont respectées mutuellement, évidemment, ça facilite les choses. Quant à la deuxième belle-mère, alors moi, c'est vrai que j'ai un peu de tendresse pour les marâtres d'une façon générale, donc j'ai un peu envie de la soutenir, cette deuxième belle-mère. Et oui, elle a peut-être voulu être copine parce qu'elle voulait peut-être pas, elle était mère déjà, elle de son côté, elle avait peut-être pas ce rôle-là à prendre ou pas la volonté, en tout cas, de se l'imposer, sachant qu'il y en avait déjà eu, entre guillemets, deux des figures maternelles, une biologique et une déjà présente. Et donc forcément, en plus, c'est pas évident de savoir sur quel pied danser avec ses beaux enfants. Moi, j'ai rencontré ma belle-fille, elle avait 8 ans.
Oui.
J'ai vécu une super belle histoire avec elle, d'une grande générosité, une très très belle histoire. Jusqu'à l'adolescence, on a passé 2 ans à plus parler.
Mmh. Ou ce qui aurait pu être le cas aussi avec sa maman.
Exactement. Mais voilà, donc c'est vrai que voilà, ces histoires, c'est vraiment ça. Qu'il faut respecter, c'est la diversité des choses. Et pour reprendre un peu ce que disait Catherine et puis Monsieur Boutier, je crois que ce qu'il faut qu'on pense aujourd'hui, c'est plus en termes ni d'échec, ni de droit absolu des uns ou des autres, c'est que la vie, elle est longue, très longue pour certains, que le mariage qui dure toute la vie, même si on en rêve tous et toutes, c'est pas forcément ce qui va se passer. Mmh. Mais en tout cas, quand l'union se défait, c'est pas forcément un échec. Je crois qu'il faut essayer d'imaginer finalement que la vie aujourd'hui, ce sera une succession de vies en commun avec des adultes, un adulte de sexe opposé ou de même sexe, après c'est un autre discours, mais en tout cas, ça peut être une succession d'événements, de passages comme ça, de moments où on sera avec une personne avec qui on aura eu un enfant, avec une personne avec qui on n'aura pas eu d'enfant, mais qui aura lui-même des enfants ou vice-versa. Enfin bon, je crois qu'il faut essayer de penser ça aujourd'hui, de penser ouverture d'esprit,
et de savoir que les choses sont pas simples. Alors elles sont pas du tout simples pour nous, je dis nous, cette génération, parce que on essuie les plâtres, oui. On n'a pas de modèle, qu'on sait pas comment faire, qu'on est encore sur des acquis, effectivement, où la famille, elle est respectable, elle est belle, elle est machin, elle est truc, elle est idéalisée aussi. Mmh. Que la belle famille aussi, elle est idéalisée, la famille recomposée. D'abord, j'aime pas ce terme de recomposée, donc bon.
Mais il y a pas d'autre.
Oui, moi je dis multiple, simple ou multiple, ce qui permet d'éviter d'avoir comme ça des choses un peu marquées.
Ouais, on peut dire compliqué aussi parfois.
Non, multiple. Multiple, ça veut pas dire forcément compliqué, ça veut dire divers.
Alors, puisque vous dites que voilà, vous faites partie d'une génération qui a un petit peu essuyé les plâtres, on va faire une petite pause et puis juste après, je vous demanderai voilà de nous donner quelques conseils. Par exemple, pour le premier face à face, quoi, ce qu'il faut éviter alors que l'enfant soit petit ou grand. Est-ce que lorsque l'on veut séduire, est-ce qu'il est question d'ailleurs de séduire cet enfant? Comment se comporter la première fois qu'on le rencontre? Je pense que c'est une question qu'on peut se poser et je suis sûre que vous commencez à avoir des réponses, vous les essuyeuses de plâtre, Marie-Luce. 01 70 62 9000 si vous voulez vous aussi nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez. 01 70 62 9000.
Faites-nous partager votre expérience.
Appelez maintenant Gaël Renard. 01 70 62 9000.
01 70 62 9000.
Une expérience?
Faites-la partager.
Appelez maintenant Gaël Renard.
01 70 62 9000. 01 70 62 9000.
La famille évolue, aujourd'hui on se sépare plus facilement qu'autrefois. Comment cela se passe-t-il quand les enfants sont petits? 01 70 62 9000.
C'est peu de dire que la vie c'est facile, crois-moi, les coups sont noirs, on les connaît, ça va. J'en ai fini de dire que la vie c'est facile, répétons celui qui a bu boire. Mes vies frères et moi, on se contente de ce qu'on a, la main sur le cœur, le père, la mère, les sœurs. On se casse pas le cou, car tout ça c'est à nous, la maison de bois et la petite plantation. Mes vies frères et moi, pour l'amour c'est pas ça. On a dans les doigts
Jairo, et oui, ça faisait longtemps que vous l'aviez pas entendu, hein, Jairo. Ça s'appelle Mes dix frères et moi. Aujourd'hui, on a réinventé la famille nombreuse, simplement les parents, qui le papa ou la maman, qui ne sont pas toujours les mêmes pour tous les enfants. On en parle encore, voilà, durant les 10 minutes qu'il nous reste, toujours avec Catherine Audibert, qui est psychanalyste, Marie, qui est une auditrice et qui nous a appelé, qui est toujours avec nous, Alain Boutier, qui est médiateur, et Marie-Luce Jovan Cheneau. Oh là, j'ai du mal. Qui est présidente du club des marâtres, auteur de Belle-mère ou marâtre, quel rôle pour la femme du père, paru aux éditions de l'Archipel. Alors vous avez eu le temps, Marie-Luce, de réfléchir à la question que je vous posais. Est-ce que voilà, vous auriez des conseils vous pour cette première rencontre avec les enfants de l'autre, qu'ils soient petits ou qu'ils soient plus grands?
Alors déjà, je dirais que le premier conseil, il est en amont. Il est dans la clarté, dans le positionnement du père vis-à-vis de sa compagne et vis-à-vis de la façon dont il va la présenter aux enfants. Mmh. Je pense que c'est vraiment important que cet homme puisse dire des mots exacts de la situation, à savoir, cette femme, je l'aime, on va vivre ensemble, on va tous essayer de partager du temps ensemble. Si on s'aime ensemble, si vous vous aimez, vous, autant que moi je l'aime, tant mieux, mais c'est pas obligatoire.
Mmh. Et comment
et
ce...
ça oui. Et ça, c'est une règle de base, c'est-à-dire que moi, j'ai vu souvent des femmes arriver au club et me dire « mais ça a été affreux, il n'a pas présenté, donc les enfants m'ont trouvé un jour dans leur maison sans savoir qui j'étais ».
Mais ça, c'est débile.
Bah oui, mais ça arrive.
Ah, ce n'était pas fait exprès.
Ben si, enfin, je crois que c'était fait dans l'inconscience, en se rendant pas compte des conséquences que ça pouvait avoir. J'en ai même une un jour qui vivait avec un monsieur depuis assez longtemps. Sa fille était en province, donc elle venait assez peu fréquemment. Et une fois où elle est venue à la maison, la première fois où elle est venue à la maison, où elle a rencontré cette femme, il a fait coucher sa femme sur le canapé.
Mm-hmm.
Voilà, vous voyez, donc on a un panel quand même assez intéressant de situations. Je pense que vraiment la règle de base, au-delà de ce qu'on peut imaginer, comme décor, comme logistique pour rencontrer ses enfants, je crois que vraiment la règle de base, c'est comment on se présente les uns aux autres et comment le père dit qui est cette femme. Alors je connais plus cette situation que celle miroir de la mère qui va dire qui est cet homme, mais en tout cas en ce qui concerne celle que je connais, c'est vraiment ça.
Mais est-ce qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas eu cette envie d'être dans la séduction. Enfin, j'imagine, face à des tout petits, on doit avoir envie d'être leur Chantal Goya, quoi, quelque part.
Oui, ça, j'aime pas la comparaison parce que je repense à ma situation, j'ai pas vraiment eu envie d'être Chantal Goya. Mais en tout cas, c'est vrai que oui, moi je suis arrivée avec des cadeaux, enfin j'ai essayé oui de faire les choses de façon. Mais moi j'avais eu un terrain favorable. Il se trouve que le papa avait parlé de moi à ses enfants avant qu'on ne se rencontre. Il leur avait expliqué aussi que j'avais très peur de les rencontrer parce que je ne les connaissais pas, que je n'avais pas d'enfants, que je ne savais pas comment les choses allaient se passer. Et ils m'avaient tous les deux fait des choses formidables. Donc ma belle-fille m'avait fait un joli dessin de son pied avec un œil à l'intérieur. Enfin, c'était très très mignon. Et elle avait dit à son père, tu lui diras qu'on l'aime déjà.
Tu te me meurs.
C'était adorable. C'était adorable. Bon, voilà. Je pense qu'il faut être clair. Je pense qu'il faut vraiment dire les choses. Au-delà, encore une fois, de tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre après pour les séduire, alors les emmener. Il y a plein d'endroits super sympas pour rencontrer des enfants et les emmener. Mmh. Alors là, je fais confiance aux adultes pour ça. Mais en tout cas, d'être clair, pas faire croire que cette femme ou cet homme dont ostensiblement vous êtes amoureux, va passer comme ça dans votre vie. Tiens, c'est par hasard que vous l'avez rencontré. C'est pas vrai, ça sonne faux. Et ça met en branle des choses immédiatement compliquées. Autant être clair dès le départ. Même si on sait tous que on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, que peut-être cette histoire ne fonctionnera pas. Mais en tout cas, voilà, je crois que c'est vraiment ça le conseil de base que je donnerais, la clarté, la limpidité des choses.
Catherine Audibert.
Je ne peux qu'affirmer, confirmer en tous les cas ce que dit Marie-Luce par rapport à la clarté nécessaire dès le départ. Bon, c'est vrai que moi j'ai du mal à faire des généralités parce que je vois plutôt des choses que je traite au cas par cas.
Oui, ouais, c'est évident.
Très différentes les unes des autres.
Est-ce que justement il faut être un petit peu dans la séduction? Est-ce qu'il faut arriver avec les cadeaux? Parce qu'en même temps, si vraiment voilà, on va s'installer et ça va pas être rigolo, ça va pas être des cadeaux tous les jours. Est-ce que les choses, cette première rencontre, moi je me dis que les parents, les nouveaux compagnons, les nouvelles compagnes doivent se poser des questions et être très tendu par rapport à cette première rencontre.
C'est vrai que la première rencontre, il vaut mieux que ce soit sous le signe de la fête que
je suis ta marâtre
en faisant la gueule.
Veux-tu une pomme?
C'est des images qui vont rester de toute façon. La première fois, c'est toujours un événement, quel que soit ce qui se passe dans la vie. Donc bon, il faut peut-être effectivement essayer de mettre toutes les chances de son côté pour la première fois, en sachant bien sûr que on va pas être dans la séduction tout le temps et qu'après il faudra que les choses se remettent en place.
Alors c'est la vie, c'est un peu. On n'a pas du tout parlé de la place dans la fratrie aussi. Lorsqu'on découvre une nouvelle fratrie, on pourrait en faire toute une émission sur ces demi-frères ou fameux demi-sœurs. Mais voilà, moi je pense à l'aîné par exemple. Autant le petit dernier peut s'attendre à un moment ou un autre à ne plus être le petit dernier un jour, mais l'aîné, il avait un peu l'impression d'être aîné pour la vie, et parfois on lui met un nouvel aîné dans les pattes.
Oui, mais c'est pareil, il faut être un petit peu ne pas avoir une représentation de tous ses enfants comme étant forcément des frères et sœurs parce que ils vont être sous le même toit, ils vont faire partie d'une même famille entre guillemets, parce que eux ne se sont pas choisis. Eux vont se rencontrer et vont avoir à faire connaissance.
Oui, tout comme lorsqu'un bébé arrive, quoi. On nous dit de préciser qu'ils n'ont pas obligés d'aimer ce bébé, d'aimer leur petit frère ou leur petite sœur. C'est la même chose pour les demi-frères et les demi-sœurs.
Ils ne sont pas obligés de s'aimer et il faut leur laisser construire leur histoire à eux aussi, c'est-à-dire faire connaissance, se friter s'ils ont besoin de se friter, qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas sous le contrôle tout le temps des adultes qui sont là pour faire les arbitres. Donc, ils ont leur histoire à vivre ensemble et il faut les laisser un petit peu gérer ça de leur côté.
Je vous propose, Catherine et les autres, de finir sur un sourire avec un extrait d'un sketch de Chevalier et l'Aspalès sur les familles recomposées, justement.
C'était bien le mariage de Roger ?
Ah ben j'en sais rien, moi j'étais au mariage d'Albert.
Albert qu'on connaît ?
Eh ben oui, celui qui a divorcé de sa première femme.
Ah bon, il s'est remarié. Avec qui?
Avec celle qui est devenue sa deuxième femme et qui en fait est la sœur de la première.
Donc il épousait sa première belle-sœur en deuxième noce. Voilà. Alors. Donc sa première femme devient sa belle-sœur.
Voilà, ouais.
Mais sa belle-sœur, elle était bien mariée à Raymond?
Eh ben oui, le frère d'Albert, puisque les deux frères avaient épousé les deux sœurs. Mais Raymond et elle, ils avaient divorcé, donc elle était libre.
Donc elle épousait son beau-frère.
Voilà.
Et c'était sympa la cérémonie?
Oh oui, puis il y avait deux mariages pour le prix d'un.
Comment ça?
Ben figure-toi qu'en même temps qu'Albert épousait la première femme de son frère Raymond, donc son ex-belle-sœur, le Raymond, lui, il épousait le même jour la première femme d'Albert, puisqu'elle était libre aussi.
Donc les deux frères réépousaient les deux sœurs, mais pas les mêmes.
Voilà.
Pour les enfants, ça doit pas être facile.
Bah, il y a les fils d'Albert qui deviennent les beaux-fils de leur tante, puisqu'elle devient leur belle-mère.
Et leurs deux cousines germaines deviennent aussi les belles-filles de leur tante. Ouais, en fait, c'est pas très compliqué.
C'est même relativement simple. Voilà, c'était un sketch de Chevalier et Las Palès. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Évidemment, on pourrait encore dire beaucoup de choses sur ces familles recomposées, même si Marie-Luce, je sais, vous n'aimez pas beaucoup ce terme. Donc, Marie-Luce Yovanchenko, le club des marâtres a un site. On peut aller visiter ce site. On peut voilà participer au forum. Merci d'avoir été avec nous, Marie-Luce.
Merci à vous.
À très bientôt et vous embrassez tous les marâtres, toutes les marâtres de votre club. Voilà, j'ai un message pour vous aussi de Kim qui nous dit qu'elle va très très bientôt vous rejoindre. Voilà, elle a fait une petite pause pendant les vacances et là elle va vous rejoindre. Kim est une de nos fidèles auditrices qu'on embrasse.
On
Catherine Audibert, merci d'avoir été avec nous. Donc je
merci
rappelle le complexe de la marâtre aux éditions Payot et puis également l'incapacité d'être seul, et c'est sur l'amour, la solitude et les addictions aux éditions Payot. Alain Boutier, merci aussi d'avoir été en notre compagnie, de nous avoir voilà apporté votre éclairage de médiateur familial. Et puis ben je rappelle comme vous nous avait dit qu'il suffit de se rapprocher de sa mairie si on veut avoir voilà accès à un médiateur familial. Merci beaucoup Alain, au revoir. Donc Alain va me dire au revoir plus tard. Et puis Marie, on vous embrasse très très fort. Merci de nous avoir appelé. Merci de nous être fidèles.
Ma psychanalyste attitrée.
Méfiez-vous, je vais vous demander de l'argent. Je vous embrasse.